je suis fasciné par les créateurs. Ceux qui, rongés par la passion, se forgent des destinées hors du commun. Je vous présente des portraits inspirants, des parcours atypiques et des caractères singuliers. Je suis Fusi et vous écoutez mon podcast. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Fusi. Donc pour continuer cette discussion et ce projet que, concernant Cornbread, j'ai invité mon ami et vous allez voir, voilà, il va s'expliquer qui il est. David, si tu veux le présenter aux auditrices et aux auditeurs assez brièvement.
Hello, salut à tous et à toutes. Du coup, je m'appelle David Keshavji, je suis... graphiste, et j'ai fondé avec plusieurs amis un collectif qui s'appelle Maximage. On a fondé ça à Lausanne, mais on a bougé dans plusieurs villes, et du coup, on fait du graphisme à travers ce collectif.
Ok. Et donc, c'est à travers ce collectif et à travers Maximage qu'il y a eu le lien donc, avec ce projet Cornbread et ce livre, cette fonte. Moi, ce que j'aimerais, pour pouvoir un peu resituer, avoir un contexte, c'est... Quand est-ce qu'a été créé Maximage et qu'est-ce que c'est exactement?
Ok, alors Maximage, on a fondé ça à la fin de nos études avec mon pote Julien Tavelli. Du coup, on a étudié à Lausanne, à l'ECAL, une école de graphisme et une école d'art. Et à la fin de nos études, on a monté un collectif qui s'appelait Maximage. Et pour la petite anecdote, ce qui est assez drôle, au début, c'était même pas qu'un collectif de graphistes, il y avait d'autres gens, dont des gens que tu connais, comme Simon Henny, Jeannot, qui fait maintenant Atelier J&J. Et en fait, à la base, toute base, Maximage, c'était un endroit. C'était une sorte d'atelier qu'on louait pour travailler, mais aussi il y avait des gens qui dormaient là-bas. Il y avait aussi Pietro Castano en habit qui était là. Et en fait, Maximage, c'était un peu un non-valise qu'on avait mis sur la sonnette comme une sorte de comment dire, de faux studio, tu vois, pour camoufler le fait qu'il y avait des gens qui habitaient de ce côté de l'atelier. C'était un grand espace à Lausanne.
Est-ce que cet atelier, ces grands espaces, c'est celui où moi je suis allé, justement, où vous résidiez, où on a pu faire des trucs ensemble?
Je pense que toi, tu es venu plusieurs fois, mais une fois, c'était à la Borde. Et ensuite, l'autre, c'était la maison. On avait une maison qui s'appelait la P15.
Moi, c'est la maison où je suis allé, ouais.
Toi, tu es venu dans la maison, ce qui était l'espace d'après qu'on a eu après, juste après ça.
Qui était déjà un endroit très cool, quoi. Très cool, ouais, à Lausanne, ouais. avec plein de gens qui passaient, où j'ai pu tatouer. Parce que moi, j'aimerais quand même resituer. T'es pas un inconnu pour moi. On se connaît depuis un bon bout de temps. On a travaillé ensemble, notamment sur le livre Ma ligne,
exact.
Avec Patrick Frey, aux éditions Patrick Frey. On a bossé sur les deux volumes du Fusil Flash Tattoo Collection, ouais. Plus celui qu'on avait fait avec la machine. C'était quoi cette machine d'ailleurs?
C'était, je crois que ça s'appelle un mimiographe. C'est une machine. Avec des feuilles d'encre à alcool qu'on tourne à la main. Voilà. On avait fait ça avec Rémi aussi.
Voilà, on avait fait ça avec Rémi. Et donc voilà, tout ça pour dire, et ça c'était sorti en 2011, donc voilà, on est en train de parler de pas mal d'années en arrière. Et depuis ce temps-là, donc où moi j'allais un peu là-bas à Lausanne, où je tatouais aussi pas mal dans cette maison, et c'était assez dingue comme ambiance, où on créait aussi des choses. Et ça, c'était à la sortie de tes études de l'ECAL, ou c'était quoi pour situer?
Ça, c'était le début de Maximage, plus ou moins, ouais. 2000. Le livre, Ma ligne, donc, qu'on a fait ensemble, et il est sorti en 2011, mais je pense qu'on a commencé à bosser en 2009-2010, ouais. Dessus. Et ça, c'était le tout début, en fait. On mettait en place notre studio. Donc, quand tu es venu à Lausanne, on habitait dans cette maison. Il y avait aussi Guy Meldem, qui est un autre membre de Maximage. Peut-être qu'il faudrait que je présente les membres de Maximage. On habitait dans cette maison et on donnait des cours et des workshops à l'ECAL. Et en parallèle, on a commencé à monter notre studio de graphisme. Et on faisait plein de projets divers, dont le projet avec Patrick Frey et Maline. Et donc ça, c'était le tout début. C'était une ambiance assez organique parce qu'il n'y avait pas vraiment rien qui était mis en place, qui était figé. On habitait à Lausanne, mais après on bougeait beaucoup. On a aussi après eu une résidence à Berlin juste après ça. Du coup, on était entre plusieurs villes et on était en train de monter le studio de graphisme à ce moment.
Et justement, ça représente combien de personnes aujourd'hui, ce truc Maximage, qui a quand même qui est devenu beaucoup plus professionnel, parce que quand on est en train de parler de ça, il y a 15 ans de ça d'ailleurs, il y a 15 ans de ça, on est en train de parler d'un groupe un peu de entre guillemets d'étudiants ou de gens de créatifs qui sont un peu au début de leur parcours en tant que voilà créer des choses. Et il y a une émulation, il y a une énergie qui est forte, mais peut-être les projets sont un peu plus freestyle, peut-être, bien que quand tu regardes un projet comme Ma Ligne et tout, c'était extrêmement professionnel, donc vous étiez déjà bien bien pro, mais c'est quand même le début de votre carrière, hein.
Ouais. Bah, c'est une question de balance, tu vois. Par rapport au contenu Maligne, c'était bien d'avoir, tu vois, un cadre assez pro pour, tu vois, pour le projet. Après, c'est vrai que nous, on a fait beaucoup d'expériences à travers le graphisme et on s'est professionnalisé, c'est clair. Mais on a toujours gardé un peu un esprit, entre guillemets, expérimental où on va tester des nouveaux trucs, on va essayer de sortir un peu de la norme ou essayer de casser certains codes du graphisme pur. Et ouais, pour revenir à ta question sur combien on est maintenant, on est quatre officiellement à faire du graphisme, trois qui sont vraiment actifs dans le studio, et après il y a Guy Meldem qui est plus actif dans des projets de recherche, projets de workshop ou d'enseignement ou des projets d'impression. Donc.
Parce que ça, c'est important de continuer à faire quand même de l'enseignement. Toi, par exemple, tu donnais des cours à l'école, c'est quelque chose que tu continues à faire. Je sais que tu fais aussi des conférences. Est-ce que c'est encore quelque chose qui fait partie de ton parcours, de ton travail?
Oui, bah en ce moment, moi, je donne des cours, mais plus à l'école, à Zurich, à une école qui s'appelle ZHDK, des cours de typo. Et mon ami Guy, lui, il continue de donner des cours à l'école. Pendant cette période, je donnais des cours avec lui à l'école et on organisait pas mal de workshops. Donc, on allait soit à l'école, soit dans différentes écoles, sur des formats de une semaine, où avec des étudiants, on faisait un projet et tu vois, on avait une sorte de brief. Soit une édition, une impression, et puis on discute avec les étudiants. Et c'est un format qui nous plaît beaucoup parce que c'est un format où c'est intense, c'est une semaine, tu peux échanger. Et du coup, ouais, c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait et qu'on continue de faire.
Ouais, j'ai l'impression, tu vois, quand tu es en train de me dire ça, j'ai l'impression que au même titre, moi j'essaie de me projeter par rapport à moi ce que je peux faire. Au même titre que moi, ça m'apporte énormément, tu vois, de discuter avec des gens à travers le podcast et en général à discuter avec des gens qui sont totalement en dehors de mon monde, de ce que je peux connaître. J'imagine que le fait de rencontrer ces jeunes qui justement ont l'énergie, l'ont pas encore peut-être canalisé, ont pas encore toutes les skills pour pouvoir réaliser des choses, et toi t'arrives, tu leur apportes une structure quelque part et des connaissances, mais eux doivent t'apporter quand même cette énergie qui fait que tu ressors de là avec quelque chose en plus. Et ça, t'arrives à le retranscrire un peu après dans le futur. Moi, j'ai l'impression que c'est une sorte de connexion avec la réalité. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça fait ça pour toi?
Bah, c'est clair que moi je le vois aussi comme ça, c'est donnant-donnant, tu vois. Tu apportes des trucs et tu reçois en échange, tu échanges et tu restes connecté avec des générations qui sont peut-être plus jeunes. Tu as des discussions qui sont cool. Et c'est pas quelque chose que je ferais à temps plein parce que c'est fatigant et puis qu'on a beaucoup de projets et puis on a notre pratique qui est importante. Mais à faire en parallèle, c'est super, super nourrissant.
Et donc, à la fin de ce type de stage, ou de, je sais pas comment t'appelles ça, tu crées une édition à chaque fois, ou c'est quoi la récompense, ce qu'il peut y avoir à la fin de ce type de stage?
Bon, pas à chaque fois, mais on l'a fait souvent au début. Et en fait, on a remarqué que tout le monde était beaucoup plus chaud quand tout d'un coup il y avait un objet final ou
Bien sûr.
un objectif que tu pouvais faire en une semaine. Et du coup, souvent c'était des livres, des éditions. et on allait imprimer, soit si l'école a une imprimerie comme à l'ECHAL ou comme d'autres écoles, on a fait ça à Amsterdam ou en France, dans plusieurs écoles, on utilise l'imprimerie, l'infrastructure de l'école, et ensemble, on crée une publication, une édition, des fois imprimée à 100, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Et du coup, c'est une sorte d'objectif commun qui est vraiment cool parce que ça crée un truc super intense pendant ces semaines, ateliers ou workshop.
Ouais, bien sûr. Est-ce que je saute un peu à quelque chose d'autre? Est-ce que tu as eu l'impression, j'ai eu l'impression, tu vois, qu'il y a peut-être 10 ans, justement, ce truc de zine, de production libre, d'édition indépendante, il y a eu une sorte de vague de ça. Tout le monde était en train de faire ça, il y avait une sorte d'énergie et tout. Et c'est retombé peut-être avec l'explosion vraiment intense des réseaux sociaux et tout. J'ai l'impression que c'est vachement retombé. Et il y a comme une sorte de nouvelle petite vaguelette qui revient, mais qui est plus la même. Est-ce que toi, tu as la même impression, toi, qui as le nez là-dedans, qui c'est ton travail de tous les jours? Ce que moi j'ai ressenti, c'est une réalité que toi, tu as pu voir dans ta réalité, dans ton quotidien?
Bah, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment retombé. J'ai l'impression que ça a changé, que ça a évolué. En fait, il y a une première vague, je pense, aussi avec l'arrivée de la RISO,
Exact.
où beaucoup de gens avec la RISOGRAPH ont commencé à imprimer des zines.
Excuse-moi, pour ceux qui connaissent pas, tu peux expliquer brièvement ce qu'est la RISO, le système de la risographie?
La RISO, oui, c'est une imprimante. Moi, je suis pas un expert de la RISO, mais en deux mots, c'est comme une sorte de grosse imprimante photocopieuse avec de l'encre liquide et on peut imprimer plusieurs couleurs. Donc on peut changer l'encre, on peut mettre du noir, mais on peut mettre différentes cartouches ou tonnerres d'encre à l'intérieur. Et on peut imprimer avec deux, trois passages, on peut faire des trucs plus ou moins expérimentaux sur différents papiers. Et le rendu, c'est un rendu qui est assez beau parce qu'il est assez proche de l'offset et l'encre s'intègre au papier. Et c'était un truc nouveau, je pense, il y a 15 ans, ça a explosé. Et du coup, il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui sont mis à faire des zines, de la micro-édition, mais aussi des cartes et plein de choses. Et par contre, pour revenir à ta question, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment retombé. J'ai l'impression que ça a un peu évolué, qu'il y a eu plus de choses qui se sont mises en place. Tu vois, quand il y a tous ces trucs de Artbook Fair avec. Il y a toute une sorte, il y a beaucoup, j'ai l'impression que le marché, le monde de la RISO et de l'édition indépendante, il est toujours en train de grandir et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans.
Ouais, mais alors peut-être que c'est moi mon intérêt qui s'est émoussé un peu, mais j'ai continué à aller justement à ces Artbook Fair, à LA, notamment à LA tous les ans, et j'ai eu l'impression moi pourtant que, alors je sais pas, comme je te dis, peut-être c'est moi qui ai ressenti ça comme ça parce que mon intérêt a pu s'émousser peut-être un petit peu, et encore je mets des guillemets, mais j'ai eu l'impression que en termes de contenu, ça se renouvelait pas énormément. C'était plus dans ce sens-là que je trouvais,
Ouais, c'est
quoi.
possible. Ça, enfin, moi, je le sens aussi. Enfin, des fois, tu vas dans une fair et au bout d'un petit moment, tu as l'impression que tu as déjà tout vu, qu'il n'y a rien de nouveau. Et ça dépend aussi de pas mal de paramètres. Et c'est vrai que moi, j'ai arrêté d'aller pendant un certain temps à ce genre de artbook fair. Et en fait, quand je retourne, je revois un peu des trucs que je trouve frais ou que je trouve cool. Mais c'est vrai que. Il y a une sorte de saturation, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, il y a beaucoup de choses qui, tout d'un coup, tu peux perdre l'intérêt assez facilement. Mais j'ai pas forcément l'impression que le niveau, tu vois, la quantité générale de cette production ait vraiment diminué, quoi.
Ok, ouais. Non, je te rejoins un peu, je te rejoins sur cette analyse. Et peut-être justement, moi j'ai l'impression aussi des fois que vu que l'accès est beaucoup plus facile, tu vois, l'accès à l'impression, tu vois, il y a moins de difficultés peut-être qu'il y a peut-être 15 ans de ça à produire, que le résultat s'en fait sentir parce que c'est peut-être moins réfléchi, tu vois, en termes de production. Mais peut-être je fais mon vieux con à dire ça, et peut-être que j'ai tort. Probablement j'ai tort. Est-ce que donc voilà, vous créez donc on a bien compris Maximage, Lausanne, le lien avec l'ECHAL, le lien avec le fait que toi quand même t'es spécialisé dans un travail de graphiste, mais spécialisé dans les créations de fontes. Est-ce que c'est ça ou je me trompe? Donc de police de caractère, pardon.
Si, c'est ça, mais c'est pas que ça. En fait,
D'accord.
on a un travail assez large où on fait de l'édition des livres, on fait de l'impression, on expérimente avec des techniques d'impression assez spécifiques, surtout à travers l'édition, l'éditorial, on fait des logos et on fait aussi de la typo.
D'accord.
Et la typo, en ce moment, on en fait beaucoup, mais on fait pas que ça. C'est des sortes de vagues où pendant un moment, tu fais beaucoup, beaucoup de typos. Et après 3 ans, tout d'un coup, tu as besoin de faire aussi d'autres projets, tu vois, de varier les projets, varier aussi les vitesses des projets. La typo, c'est un truc qui peut prendre extrêmement beaucoup de temps, enfin, qui est vraiment lent, entre guillemets. Une création de caractère, ça peut prendre 1, 2, 3, 4 ans, tu vois.
Ok.
Du coup, tu peux aussi faire des caractères qui sont plus rapides, des caractères plus de titres, qu'on appelle display aussi. Ça vachement plus vite, mais en vrai, c'est une discipline c'est un peu une discipline de moine où tu passes beaucoup de temps sur devant ton derrière ton ordi
À
à découper,
fignoler les détails à l'infini.
à changer des courbes de lettres, et t'es dans la lettre, quoi. T'es dedans, quoi.
Je comprends. Et tu sais, tu as évoqué le fait que Maximage, et moi ça je l'ai remarqué tout de suite, et je pense que c'est ce qui fait votre spécificité, c'est le fait que vous preniez des risques. Vous prenez des risques, vous mettez un peu, vous êtes un peu wild dans ce monde qui est extrêmement quand même, j'utilise que des anglicismes, mais qui est quand même extrêmement square, tu vois, j'ai envie de dire. Comment j'ai l'impression que ça vous définit en tant que groupe. De quelle manière justement, et si tu es d'accord avec ce que je viens de te dire, de quelle manière vous prenez des risques et de quelle manière vous faites des expérimentations justement dans tout ça?
Bon, je pense que, enfin, pas pour revenir à la manière telle quelle, mais enfin, l'envie de faire ça, c'est parce que, en fait, du moment où tu sais exactement ce que tu fais, que tu as une routine de travail, que tu fais les mêmes trucs avec les mêmes grilles, les mêmes formats, les mêmes systèmes, ça devient, pour nous, hein, de notre point de vue, ça devient assez vite ennuyeux
D'accord.
et c'est pas du tout excitant. Donc, nous, on aime, tu vois, challenger à travers dans notre pratique, dans notre taf, tu vois, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle on prend des risques. Et ensuite, la manière, il y a plein de manières, tu vois, c'est genre essayer de casser des codes, essayer de mélanger des choses, essayer de déconstruire des méthodes d'impression pour arriver à des résultats où tu sais pas exactement ce qui va arriver, tu vois. À la fin, tu vas le jour de l'impression et t'es pas sûr à 100% si tout d'un coup les plaques que tu as créées ou des trucs que tu as fait de manière analogue vont bien s'imprimer ou pas, et tu vas avoir une sorte d'élément de surprise et des défis techniques. Donc il y a plein de manières, en fait, d'apporter ces petites bulles d'expérience dans le travail. Et après, nous, on a aussi une pratique où on fait des projets pour nous-mêmes ou qu'on publie nous-mêmes, et après, on travaille aussi pour des clients à plus ou moins grande échelle. Et c'est aussi cool, tu vois, d'essayer d'amener ces trucs expérimentaux pour des clients établis, tu vois, pour des éditeurs comme Patrick Fry à Zurich, ou pour des marques ou des trucs que tu vois un peu plus prestige, où tu leur vends un truc où tu sais même pas exactement comment ça va, comment tu vois
Il y a une
leur
notion
vendre.
de risque, quoi. Mais c'est maintenant
Voilà.
devenu votre trademark, quoi. C'est votre patte, c'est cette notion de risque. Et j'ai l'impression aussi, ce risque, il est aussi lié à l'erreur. Tu vois, j'ai l'impression, et tu vas me dire si je me trompe, que l'erreur dans l'expérimentation et tout peut amener la petite touche en plus qui fait que, voilà, c'est une erreur, ça s'est imprimé d'une manière bizarre, le papier a réagi différemment, ou je ne sais quoi. Et cette petite erreur fait que c'est intéressant et on peut l'exploiter et on peut la travailler sur ça. Est-ce que c'est quelque chose qui existe dans votre travail, ce truc, cette notion d'erreur?
Ouais, ça existe clairement. Après, nous, on le définit pas vraiment comme une erreur. Enfin, c'est juste, tout d'un coup, tu as plein de paramètres et tu peux pas contrôler tout le temps. Certains paramètres vont tout d'un coup créer un résultat. Tu vas avoir un résultat, c'est plus des surprises que des erreurs. Nous, on le définit plus comme
D'accord.
ça. tout d'un coup, tu vas voir un truc et tu es là, waouh, tu t'attendais pas à ça, tu es limite un peu choqué, tu n'arrives pas à te dire, oh, c'est bien, c'est cool ou pas. Mm-hmm. Et puis, en fait, à ce moment-là, ce qui se passe souvent, c'est que tu dois mettre le projet de côté, tu le regardes une semaine ou deux mois plus tard, et là, tu es là, waouh, en fait, c'était trop bien ce qui s'est passé. Et tu vois, tu as un recul sur les expériences ou l'impression ou ce que tu as fait. Et ouais, c'est plus la manière de prendre des risques qui va créer des surprises ou des choses un peu hasardeuses, mais c'est pas forcément une erreur où tu peux exploiter une erreur dans le sens où un imprimeur, il va te dire, ouais, ça c'est une erreur d'impression. Mais toi, tu dis, ah, en fait, si tu baisses le niveau d'eau sur une presse offset, ça va créer ces taches. Et en fait, moi, je veux jouer avec ces taches. Du coup, on va baisser le niveau d'eau pendant qu'on imprime. Et ces taches, elles vont, si tu veux, entre guillemets, oui, c'est une erreur, mais tout d'un coup, c'est ces taches qui vont commencer à venir sur ta page et te créer des motifs super organiques, chelous, que tu vois, que tu sais pas ce que ça va donner. En fait, c'est exploiter une erreur. Donc,
d'une manière,
tu as raison. Mais on le définit pas comme une erreur, quoi.
C'est plus de l'expérimentation, disons.
Ouais, peut-être que l'erreur, c'est le début de la faille. Et puis après, du moment que tu la pousses et que tu la testes et que tu la mets au next level, ça devient même plus une erreur, ça devient une expérimentation ou
une opportunité, même, guillemets.
Exactement, ouais. Mm-hmm. Et souvent, nous, on adore, tu vois, quand on travaille avec l'impression, on discute avec les imprimeurs et souvent, ils nous disent « Ah, ça, tu peux pas faire » ou « Ça, c'est dangereux ». Et c'est là où, tout d'un coup, tu peux tout d'un coup canaliser, discuter avec eux et trouver des opportunités pour faire des trucs inattendus, quoi.
Pour aller plus loin. Mais tu sais, c'est vraiment relié à l'art, quoi. Tu vois, entre la technique que tu peux maîtriser et qui peut vite être chiant, tu vois, en termes de rendu, et justement le côté artistique, le entre guillemets, le truc de génie ou quoi, qui vient la plupart du temps d'une expérimentation qui est sans cesse, tu dois expérimenter et tu trompes et tu fais des choix à aller dans certaines directions. Et c'est justement cette balance-là entre dire est-ce que c'est juste une erreur, c'est juste une expérimentation à la con, et jouer avec ça, c'est ça qui est intéressant et qui fait des œuvres uniques. Donc mm-hmm. dans ce cadre-là, vous êtes quand même dans entre guillemets, un process de création qui est classique, mais vous sortez quand même d'une sorte peut-être d'artisanat et de règles, c'est ce que je disais au tout début, de règles quand même assez square sur justement une discipline qui est régie par des règles, ce qui est quand même le graphisme et tout, c'est quand même régi par des règles. Vous mettez quand même les pieds là-dedans et vous changez un petit peu ce monde-là, j'ai l'impression.
Bah, pour résumer un peu cette discussion, je pense que nous, notre but, c'est d'avoir des résultats ou tu vois un truc au final qui est nouveau, qui est différent, qui est frais entre guillemets d'une certaine manière. Et on a plein de techniques pour arriver. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on crée nos propres outils. Ça peut être dans l'impression, mais ça peut être dans la typo, ça peut être dans la fabrication d'un livre, ça peut être dans plein de domaines ou de manières. Ça peut être avec des profils de couleurs qu'on crée pour altérer les images. Tu vois, de créer tes propres outils pour créer un résultat qui est différent, tu vois, qui est pas, tu t'es levé, t'es allé sur ton programme Photoshop, t'as fait le même truc, tu vois. Tu crées un peu une sorte de, ouais.
Ouais, tu crées tes propres outils pour pouvoir aller dans les directions que tu as envie d'aller, quoi.
Exactement.
Mmh. Donc, et toujours
plein de formes différentes, en fait.
Mmh. Donc, toujours quand même maîtriser la technique avant de partir dans un truc wild, quoi. C'est quand même votre base, quoi.
Ouais, ou des fois, c'est pas vraiment de la maîtrise, hein. C'est une fine. Tu vois, c'est une idée d'essayer un truc. On a fait des trucs.
Mais tu connais tes outils, tu vois, c'est là que je veux dire, tu pars d'une base quand même où tu maîtrises des outils, tu as fabriqué des outils et après tu laisses la spontanéité ou l'erreur ou je ne sais pas comment on l'appelle s'immiscer là-dedans et peut-être ton œil est aiguisé justement sur le fait que tu es ouvert à ces opportunités-là.
Ouais, ouais, je pense que c'est ça.
Et d'ailleurs, juste pour finir ou pour peut-être quand même parler des projets, parce que pour des personnes qui ne connaissent pas ce que vous avez pu faire et commencent un peu à comprendre votre état d'esprit, ce que, qui vous êtes et tout. Mais on est en train de parler de projets avec Louis Vuitton, Feidon, Nike. Vous avez fait un truc pour Nike, pour Palace, la marque de skate et tout. Il y a quoi d'autre d'ailleurs? C'est des grosses, voilà, c'est des gros clients que vous avez.
Ouais, on a aussi, en fait, moi je trouve super de pouvoir bosser pour un petit éditeur expérimental et aussi une énorme marque, tu vois, bosser pour faire un livre pour Nike ou pour Louis Vuitton. Je trouve que de pouvoir alterner différentes échelles, différentes audiences, c'est vraiment cool. Après, justement, ça a mis du temps jusqu'à ce que Nike et Louis Vuitton nous fassent confiance et nous appellent pour designer leur truc. Je pense que ce qui a fait que ce soit possible pour nous de faire ça, c'est que on a eu un travail où on a fait notre truc pendant super longtemps et on a persévéré, tu vois. On a fait que les trucs pendant longtemps, on faisait que les trucs qu'on trouvait cool, qu'on kiffait et on n'a pas mis d'eau dans notre vin, si cette expression existe encore.
Elle existe. Chez les vieux, le dosage, elle existe, quoi.
À l'ancienne. Non, mais on a fait nos trucs, on a fait ce qu'on kiffait, sans viser vouloir faire de l'argent ou vouloir bosser à tout prix pour tel ou tel client. Et au bout d'un moment, quand on a pu vraiment, tu vois, développer notre studio, on s'est professionnalisé, on a eu notre truc. Et là, tout d'un coup, on a développé notre propre imagerie, notre propre esthétique, entre guillemets. Et c'est là où tout d'un coup, les clients, ils voient que tu maîtrises, que tu fais des trucs différents, que c'est frais. Et puis, c'est là où, comme ça, on a pu bosser pour toutes ces marques et ces clients.
Excuse-moi de te couper, mais c'est... j'ai envie de te dire, et je vais faire l'ancien, s'il y a des jeunes qui écoutent, c'est exactement ça, la démarche, et j'ai l'impression que la démarche un peu logique, c'est-à-dire tu restes fidèle à toi-même, tu fais ça pour expérimenter, pour te faire plaisir, pour créer qui tu es, pour trouver qui tu es, et ensuite tu t'imposes, et c'est à ce moment-là que l'argent vient, c'est à ce moment-là que les plans ils viennent, c'est pas avant, et je pense que c'est la démarche logique de tout créateur, j'ai l'impression. Peut-être qu'il y a maintenant, avec les réseaux sociaux et certaines autres choses, les règles ont été un peu chamboulées, mais je pense que c'est quand même la démarche qui est la plus saine et naturelle.
Ouais, c'est la démarche noble, quoi.
Voilà, je pense.
Des raccourcis à tous les étages. Non, mais en fait, c'est vrai, hein, c'est très vrai. Si tu fais les trucs que tu kiffes, les gens, ils vont t'appeler et te demander pour ça. Si tu fais des trucs... pour l'argent ou en espérant tout d'un coup aller gravir des échelons d'une manière ou d'une autre, souvent tu te retrouves un peu coincé dans un cul-de-sac.
Ouais, voilà, au bout d'un moment. Mais je pense que c'est aussi le temps. Tu sais, il faut du temps pour construire des choses, il faut du temps, il faut de l'investissement, il faut de la passion. Donc tu peux effectivement cut the corners et arriver très vite quelque part, mais il te manquera toujours ce temps que tu as passé parce que c'est ce temps-là qui fait que construit, quoi, humainement, mais aussi dans ton art, dans ta discipline et tout ça. Donc quelque part, ce travail et ces expérimentations, il faut y passer, hein, quoi qu'il en soit, quoi. Donc,
ça, il faut rester déterminé, quoi.
Alors maintenant qu'on a fait un peu les anciens, des leçons de vie, on va parler de quand même ce qui nous amène là, en plus de toute façon, je voulais vraiment faire un focus ou vous mettre un petit peu à la lumière par rapport à votre travail, parce que comme je disais, ça fait longtemps que je vous suis et je sais la qualité de ce que vous pouvez faire, le temps, l'investissement et tout ça que vous avez pu y passer. Mais aujourd'hui, ce projet, il est plus lié, donc cette discussion sera peut-être plus liée à ce projet Cornbread. Donc on a eu Cornbread qui est venu parler de son parcours, de ce qu'il a pu faire avec son ton particulier et sa personnalité. Mais aujourd'hui, je voulais justement avoir ton opinion, parler de ce projet de livre, de fonte, tout ça. Donc, déjà, comment est née, donc, quelle était la jeunesse de ce projet?
Ok, pour parler de la jeunesse, il y a 2 ans de ça, en fait, donc Maximage, c'est le nom de notre studio de graphisme. On a sorti un autre projet qui s'appelle MaxiType. Et MaxiType, c'est une plateforme de distribution de caractères typo. Donc, on fait exclusivement de la typo. C'est un collectif plus large ou qui inclut d'autres studios. Et on fait vraiment des typos qu'on vend à différents clients, qu'on peut acheter certaines typos gratuites. Et c'est un domaine où on est assez expert là-dedans. On a sorti cette plateforme. Et au début, on n'avait que 4-5 fontes. Donc, des fontes, c'est des typos.
Je te coupe pour vraiment pour des gens qui ne connaissent pas du tout ce que peut être une typo. Une typo, c'est quoi? Fais-le brièvement, tu vois.
Bon, une typo, une police de caractère que tu peux installer sur ton ordinateur. Donc, ce qu'on fait, c'est des polices digitales. C'est un fichier qui contient plein de lettres, de glyphes, d'accents qui sont dessinés à travers un logiciel et que tu peux installer maintenant. Sur chaque site, Google Fonts, c'est un logiciel, enfin, c'est une distribution de caractères. Tu peux activer différentes typos. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent DaFont, c'est là où tu télécharges des typos gratuites. Et après, il y a des trucs plus pro. C'est un marché qui explose. Il y a beaucoup de Type Foundry, comme ça s'appelle en anglais, donc qui arrivent sur le marché. Des gens dessinent des caractères et à travers une page web, tu vends des licences pour utiliser ces typos.
Et ces typos, elles vont être utilisées aussi bien pour le digital que justement pour de l'impression.
Exactement, tu peux utiliser pour faire un livre, un site, un logo, faire des
Des
t-shirts,
affiches, des t-shirts, n'importe
n'importe.
quoi. Ok, donc je voulais juste recontextualiser un petit peu pour que tout le monde comprenne bien. Donc vous avez cette société ou ce groupe qui est donc MaxiType, et c'est à travers ce groupe-là que vous êtes intéressé à Cambrai. Excuse-moi, je t'ai coupé par rapport à ça, je te laisse continuer, pardon.
Ouais. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on est arrivé à Cornbread. Au début, sur notre site, on avait 5 typos, certaines plus classiques que d'autres. Et dans cette même démarche de casser un peu les codes ou de ne pas faire la même chose que ce que tous les gens font à côté de nous, on s'est dit, ah, ce serait cool. On a eu plusieurs idées, hein. Il y a eu plein d'idées qui sont venues et il y a eu plein de projets de typos qui sont partis en même temps. Mais un des projets, c'était, ah, ce serait marrant de faire une typo graffiti, sachant que c'était un défi aussi, parce que c'est compliqué de faire une typo graffiti sans tomber à côté, tu vois. C'est souvent les typos graffiti qui existent, c'est des trucs faits à l'arrache, vite fait, téléchargeables gratuits. C'est aussi, faire une typo graffiti, c'est un marché où il n'y a pas vraiment d'argent, donc si tu le fais, tu vois,
Pour le
pour
fun,
le
encore.
plaisir que pour payer ton loyer. Et c'est aussi un truc qui a été fait par pas mal de gens qui sont un peu à côté de la plaque. Tu vois. Il y a des trucs plus ou moins cool, mais nous, notre défi, c'était comment faire une typo graph ou graffiti ou tag qui soit vraiment bien et qui soit un challenge et qui ait du sens, tu vois, qu'on puisse sortir sur notre plateforme. Et
Sans
du coup,
être,
c'était.
en fait, c'est vite fait cheesy, quoi, un truc graffiti, parce que chaque tag est différent. Il y a un flow, tous les mecs qui sont dans le graffiti, tous les gens qui nous écoutent, qui commencent à avoir l'habitude d'entendre tout ça. Il y a un flow, chaque tag est différent, c'est à la main, et quand tu ajoutes deux lettres plus ou moins graffiti ensemble, ça fait pas un beau tag à la fin. C'est pas ça qui fait un rendu bien. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement tricky comme méthode. Donc vous en êtes là de votre réflexion, j'imagine.
C'est ça, c'est qu'en fait tu peux pas transcrire l'énergie d'un tag dans une typo où tu as chaque lettre, c'est la même et tu l'écris à l'ordinateur, ça marche pas quoi. Et du coup, c'était plus un défi qu'on s'est mis. On s'est dit comment on pourrait faire une typo grave qui soit vraiment cool, qui soit chambé quoi. Et du coup, on a eu pas mal de discussions avec Daniel de Maximage, avec Guy de Maximage, avec Julien. On a discuté et on s'est dit il faudrait qu'il y ait un aspect historique avec cette typo, tu vois, que ce soit un truc limite, ça parle plus, que ça aille un peu au-delà, que ce soit un peu genre limite histoire de l'écriture, ou tu vois, qu'il y ait un truc historique et que ce soit pas juste, ah, on a pris un nos potes qui fait un peu du tag et on a digitalisé sa typo, ça nous intéressait pas. Donc, De fil en aiguille, on a recherché, on a regardé un peu, et qui était, tu vois, enfin, avec qui on s'est dit, il faudrait qu'on collabore avec un pionnier, tu vois, avec quelqu'un qui vraiment fasse partie des
De
premiers
l'histoire, quoi.
éléments, ouais, de l'histoire. Et on a regardé un peu les différents trucs. Au début, bien sûr, on a pensé à New York, on a regardé un peu les noms et tout, et ensuite, au bout d'un moment, on est tombé sur Cornbread. Et tout d'un coup, on s'est dit, mais en fait, ouais, c'est ça, c'est lui. Je sais pas, tout d'un coup, ça a cliqué parce que il vient déjà de Philly, c'est vraiment que du tag, il n'y a pas de pièces. Il a un tag qui est. Il a un tag assez spécial et il est d'une époque aussi, des années qui sont assez précurseurs. Et tout d'un coup, je sais pas, ça a cliqué dans notre tête, on s'est dit, on va le contacter, Cornbread. Voir ce qu'il dit, quoi.
Ok, vous avez bien fait. Et en même temps, il y a une certaine logique là-dedans en termes de style, parce que autant un mec qui enchaînerait ses lettres, tu vois, qui aurait une sorte de style un petit peu wild style ou quoi, avec, tu vas pas pouvoir utiliser un style où les lettres sont enchevêtrées les unes aux autres. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas
Exactement.
l'utiliser dans une fonte. Là, en l'occurrence, Cornbread, c'est de la lettre bâton, c'est de la lettre qui est séparée. Chaque élément est séparé, bien lisible, surtout bien lisible, quoi. Et il y a quand même ce côté très enfantin, très naïf dans l'écriture. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous intéressait, ce côté naïf, peut-être?
Bah ouais, on trouvait ça cool que tout d'un coup ce soit pas forcément justement le cliché du typo un peu wild style, compliqué, avec trop de phases, mais que ce soit plus un truc avec Cornbread, c'est surtout des grandes lettres, petites lettres, lettres séparées, c'est lisible. Et puis il y a un peu un esprit avec ça, et du coup on s'est dit que ça allait marcher, tu vois, qu'on pourrait le transcrire de manière bien au typo, quoi. Tout d'un coup, on a vu
Il y a un
ce jeu.
contexte derrière, un contexte historique qui est énorme en plus, quoi.
Bien sûr, ouais. Et c'est ça, ouais, c'est ça aussi qu'on a découvert en faisant le projet. Enfin, on a plongé dedans parce qu'on n'était pas des experts, tu vois. Et tout d'un coup, en discutant, en faisant plein de recherches, on a découvert, ouais, vraiment plein de trucs super intéressants.
Vous aviez entendu quand même, vous aviez connaissance de qui il était, de ce qu'il avait pu faire, de ce qu'il représentait, ou c'était
Oui,
quand même
bien
assez
sûr.
flou, ouais.
Ouais, bien sûr. Bien sûr, mais c'est vrai qu'après, on n'avait pas tout, tu vois, toute l'historique, le
Bien sûr.
contexte, l'enjeu, tu vois, enfin, en le rencontrant et en parlant avec lui, et en lisant et en diguant, en faisant cette fonte, on a beaucoup appris, quoi. On était, si tu veux, on n'était pas des experts de cette période aussi. Parce que c'est une période aussi assez spéciale. On n'était pas du tout des experts de qui vient avant qui à ce moment. Et puis c'est pas un truc qui nous intéressait non plus spécialement. Mais c'était plus par rapport ouais, à ces lettres et aussi à une sorte d'attitude en fait. C'est une sorte d'attitude par rapport au Goethe qui nous a plu. Et puis c'est là
C'est-à-dire
où
attitude par rapport au Goethe, ça tu l'as perçu ou vous l'aviez perçu en regardant ou en vous intéressant à lui, ou est-ce que vous l'avez découvert quand vous l'avez rencontré?
Bah, au début, c'était plus un feeling, et puis un feeling par rapport au tag, et ensuite en discutant avec lui. Donc, juste pour expliquer, ouais, le
Vas-y.
projet est parti à Philadelphia. Donc, peut-être je vais faire un petit historique de comment ça s'est passé.
Je t'en prie.
On a contacté Cornbread, et ça, c'est aussi un truc que je trouve toujours assez cool, c'est de se dire que, tu vois, on est sur la même, tu vois, il y a plein de gens, on est sur la même planète. On se couche le soir, on se lève le matin, et tu vois, il y a plein de gens qui sont là. Et en fait, tu oublies que tu peux tout à coup te lever un matin et dire, ah, vas-y, je vais contacter Cornbread, tu vois. Et c'est un truc, on s'est dit, ah ouais, bah, on peut le, tu vois.
Non, mais je te suis, il y a ce côté inaccessible, mais en fait, tout est accessible, il suffit juste de se
C'est
donner
ça.
la peine de le faire, quoi.
C'est un peu, pour pas être cliché, mais tu vois, on habite tous sur la même planète, et tu peux te dire, waouh, Cornbread, voilà, c'est lui, ou ou même, tu vois, d'autres gens que tu pourrais te dire qui sont inaccessibles ou qui sont des stars ou quoi, mais en fait, d'une certaine manière, tout le monde est accessible, tu vois. Pas si tu restes derrière ton téléphone sur Instagram, non, mais en fait, si tu veux, tu peux connecter avec plein de gens. Donc,
Bien sûr.
puisqu'on s'est dit ça, on s'est motivé, c'était assez drôle la rencontre. En fait, on lui a commandé des t-shirts en premier. Et à travers ça, on a échangé parce qu'il y avait des problèmes avec les t-shirts. Et du coup, il nous a écrit par mail et on a un peu échangé. Ça, c'était avant qu'on commence le projet.
D'accord.
Ensuite, quand on a commencé le projet, donc on avait son email et on lui a écrit. On lui a expliqué cash ce qu'on allait faire et ce qu'on voulait faire et si ça l'intéressait. Il a dit qu'il était chaud, qu'il voulait bosser avec nous, qu'il trouvait ça cool. Et du coup, on est parti voir un ami à New York et on a été genre 4 jours à Philly, dans les quartiers nord de Philadelphie, là où il habite.
Donc
Et...
où il a grandi aussi, parce que c'est là qu'il a
Ouais,
commencé, dans le quartier nord, justement.
exactement. C'est pas le même quartier, mais c'est aussi le quartier nord de
D'accord.
Philadelphie. Et on est parti, on a été 3-4 jours avec lui et on a dessiné avec lui pendant 3 jours des lettres, des combinaisons de lettres sur des feuilles, tu vois. On lui a fait tester des marqueurs et on a vraiment pris le projet au sérieux, tu vois. On s'est dit, si on fait cette typo graffiti, on va la faire avec la même précision et la même technicité qu'une typo, qu'une Helvetica ou qu'une typo
Je
géométrique, tu vois, on
comprends.
va le faire.
Donc tous les détails comptent, donc il vous fallait un maximum d'éléments pour pouvoir recréer cette typo au plus proche de ce que lui pouvait faire.
Exactement. Donc, on lui a fait dessiner des centaines de lettres sur ces grandes feuilles, sur ces grandes feuilles.
D'ailleurs, on en voit dans le livre tout, c'est assez magnifique, quoi, où il est en train de dessiner. Avec différents marqueurs, donc vous lui aviez donné différents marqueurs pour pouvoir justement trouver la bonne structure, j'imagine, la bonne grosseur de lettres, le bon flow.
Ouais, exactement. On l'a fait tester. Tout d'un coup, il y en a un qui, tout d'un coup, il avait le flow avec celui-là. Il a
C'était
dit
quoi
non.
d'ailleurs pour la petite histoire? C'était quoi comme type de marqueur? Un Sharpie, hein, c'était quoi?
Non, c'était une tête ronde. Je sais même pas comment il s'appelle.
D'accord.
Ouais, je pourrais retrouver. Mais c'était un marqueur à encre que tu remplis avec une petite tête ronde, plus petit qu'une baranne, tu vois. C'était un petit mais quand même gros, tu vois. Le
Une
truc.
sorte de squeezer, un petit.
C'était un squeezer en fait. C'était un
D'accord,
squeezer.
d'accord.
Du coup, on a dessiné toutes ces lettres avec lui. Pendant ce temps, il nous a raconté un max d'histoires de sa vie, de son quartier. On lui posait surtout plein de questions par rapport à, tu vois, à l'époque, les années 60, début 70. Mais, et.
Principalement milieu 60, fin 60, parce que début 70, j'imagine qu'il est même plus actif, non?
Bah, oui et non, en fait, le truc, c'est que début 70, il y a eu cet article de journal où un journaliste a confondu, en fait, je crois que c'est même un policier qui a confondu et qui a cru que Cambrette s'était fait tuer.
Et ça, c'est pas à 67?
Ça, c'est pas 67, non.
Ah ok, je croyais que c'était le moment clé de quand il revient justement, que c'était 67. C'est quand alors cette date de ce journal où justement il annonce la mort de Cambrai?
1971.
Ah ok, d'accord. Ah, ok, bah, je me
C'est
suis étonné.
là où il a fait un comeback, tu vois. Je pense qu'il devait avoir 18-19 ans à ce moment, mais il avait, tu vois, il était déjà plus ou moins Old City avant, si on peut dire ça. Et il y a eu cet article, et en fait, dans le livre donc qu'on a fait après la typo, si, je sais pas si tu l'as sous les yeux,
Ouais.
mais il y a plein de repos de tous ces articles, tu vois. Et
Bien
la
sûr.
première page, il y a cet article-là. Et en fait, il y a tout qui est crédité à la fin avec c'est chronologique. Donc, en fait, tous ces articles de journaux sont hyper intéressants si tu.
Ouais, non, mais clairement, ouais. Effectivement, il y a les dates qui sont là, et
Le
effectivement,
combat de 60.
Cornbread 71. Ok, d'accord. Okay. Donc c'est moi qui me suis un peu emmêlé les pinceaux. Très bien. Ok. Donc c'est là qu'il fait son comeback pour prouver qu'il est bien vivant, qu'il fait le Boeing, qu'il fait le zoo.
Exactement.
Ouais. Ok, d'accord. Ok. Et je pense que donc il a eu un break. Il a dû bien peindre de 65 à 67 ou 68. Et après, il a un petit break. Et le fait qu'il y ait cet article, ça le remet en scène.
Exactement. Ouais.
Ok. Donc vous êtes chez lui. D'ailleurs, on voit un peu chez lui et tout. Il y a plein de choses qui sont au mur. Il y a plein d'articles. Il y a plein de trucs au mur, non?
Ouais, il, dans son salon, c'est cool. Il a des vitrines, il a plein de tableaux, plein de trucs, des gens, des photos que les gens lui ont envoyées. Ouais, il y a plein de trucs, quoi.
c'est assez cool de voir ces photos-là, justement. Ouais.
Ouais, non, c'est trop bien.
Et donc, t'es chez lui, il y a ça. Il y a quelque chose que tu m'as dit aussi qui m'avait impressionné, c'est que tu lui demandes s'il a un book, et son book, il n'a pas de photos, c'est ça? Et il n'a que des coupures de journaux.
Dans le book, je pense qu'il y avait 4-5 photos, c'est tout. C'est une sorte de gros classeur A4, avec que des photocopies dedans, et la plupart, c'était des articles de journaux.
D'accord.
Il y avait plein d'articles de journaux, et au début, on ne comprenait pas trop. Il y avait articles de journaux, nous, on cherchait des photos, on était là, on veut voir des photos. Mm-hmm. Et il y avait 2-3 photos qui étaient des photocopies de photos, tu vois, des trucs qui étaient passés 3 fois à la photocopieuse, de super mauvaise qualité, que quelqu'un avait dû lui filer. Après, il y avait 2-3 autres photos, mais d'autres tailles qui n'étaient même pas de lui. Et il y avait beaucoup, beaucoup d'articles de journaux avec son nom entouré chaque fois. Au bout d'un moment, on a capté que son book, son truc, c'était ça, qu'en fait, il faisait toutes ses actions pour se faire remarquer. Et tout d'un coup, le truc avec la presse, c'était un peu une sorte de média où il se faisait, tu vois, il se faisait presque de la promo à travers ça.
100%, quoi. Dans son témoignage, c'est vraiment ça qui en ressort. C'est-à-dire que son but principal, c'était quand même d'être connu, plus connu que Jésus, il nous dit, plus connu que Jésus. Mais son but, c'était de se servir de la presse pour comme un moyen de promotion, quoi. Bien avant le street marketing ou quoi que ce soit, c'était son moyen de se faire connaître. Et c'est limite une obsession, un petit peu.
Ouais, bah je pense que c'est ça. Et c'est le moyen de se marketer à travers ça.
Ah, et il me semble d'avoir une reconnaissance aussi. Reconnaissance de... Parce que j'ai l'impression que c'est extrêmement important dans son parcours, avoir cette reconnaissance du grand public.
Ouais. Mais en fait, ce qui est encore plus, enfin, ce qu'on a trouvé super intéressant, c'est que après coup, donc on a travaillé sur la typo et en même temps, on a commencé à travailler sur un livre, sur ce livre. Et en travaillant sur le livre, on a retrouvé plein de ces articles de journaux. Lui, ses photocopies, elles étaient un peu éclatées. Ça allait dans tous les sens. Mm-hmm. C'était pas chronologique. Enfin, c'était des morceaux, des bouts découpés et tout. Et en fait, on a pu retrouver pas mal de ces articles en entier.
Ça, et en quoi, en digant en ligne et tout ça?
Ouais, c'est un mix. Donc, certains viennent directement de son book qu'on a scanné ou refotographié. Mm-hmm. Puis d'autres, on a digué en ligne. On a retrouvé quelques trucs que lui-même avait pas, et du coup il a halluciné quand il a vu ça, il était là waouh.
Non, il nous a dit durant l'interview, il nous a dit waouh, David, il a fait un travail de fou, il m'a retrouvé il était super excité de ça, que tu avais retrouvé des articles qu'il avait pas lus, et c'était assez ouf pour lui, quoi. C'était un petit génie d'informatique, quoi. Il savait pas comment ta mère aussi à faire ça, mais voilà, en tout cas il était super heureux de ça.
C'est une autre époque pour lui,
bien sûr.
Mais ce que je voulais dire, c'est ce que je trouve super cool à travers ces articles, c'est que c'est des journalistes qui ont écrit, tu vois, c'est pas Cornbread qui te raconte une histoire.
Et bien sûr.
Cornbread, il raconte plein d'histoires, et des fois, tu vois, tu sais pas à quel point c'est exagéré ou pas, mais mm-hmm. dans ces articles, il parle de Cornbread tout le temps, tu vois, et il y en a plein, et c'est genre années, tu vois, c'est... Dans le livre, on a réuni tous les articles de, justement, 71, et il parle de King of the Wall, Cornbread is dead, you know Cornbread, the Graffiti King. Et en fait, tu vois que c'est des journalistes de Philly, donc downtown, des blancs pour la plupart, qui écrivent ces articles et ils parlent de Cornbread comme, tu vois, comme d'une célébrité. Et ça, on a trouvé que c'était fou, quoi.
C'est incroyable. Non, non, effectivement, c'est incroyable. Et je peux comprendre aussi que cette reconnaissance venant d'un monde qui est totalement extérieur à celui dans lequel il évolue, quoi, parce qu'on est en train de parler quand même ouais, début 70 ou fin 60, à Philadelphie, quartier nord, quartier noir, pas les plus riches. C'est quand même, tu vois ce que je veux dire, le gap qu'il y avait entre ces communautés, il était quand même beaucoup plus large que ce qui peut être aujourd'hui, même si aujourd'hui il reste large. Avoir cette reconnaissance des médias mainstream, la plupart du temps blanc, mais populaire, sur sa personne, ça a dû être pour sa construction, parce qu'il était quand même encore un ado, ça a dû quand même être assez important, quoi.
Ouais, je pense que ça a dû être carrément un boost, quoi. Et c'est pour ça que je pense qu'il collectionnait plus ses articles que des photos.
Ah,
Et en
ça a plus
fait,
de valeur, quoi.
ces articles, en fait, c'est aussi une sorte de validation à travers une époque. Et tu vois, c'est aussi un peu une sorte de preuve de ce qu'il a fait, tu vois, de compte-rendu.
100%.
Parce qu'il y a beaucoup d'articles de plein de journaux différents, tous la même année. Et ça, c'est justement un peu avant que les premiers articles sur Taki, etc., paraissent à New York, tu vois.
Oui, ben je
Et...
crois que le premier justement sur Taki dans New York Times, je crois que c'est 72, si je ne me trompe pas, et c'est peut-être 73. Non, je crois que c'est 72, ou 71 ou 72, mais bon.
71 ou 72, ouais. Et il y en a un dans le qu'on a reproduit dans le livre de Cornbread qui est super cool, qui s'appelle The Aerosol Autographers. C'est une journaliste, Sandy Padway. Why they do it? Et en fait, tu vois, sur 5 pages, elle essaie vraiment de capter comment, pourquoi ces jeunes, tu vois, de North Philly Street font ça, quel est le sens de ces signatures, pourquoi tu vois, ils essaient vraiment de creuser le truc de manière assez ouverte, en fait.
C'est intéressant parce que c'est déjà une sorte d'analyse sociologique de pourquoi. Déjà le titre Why They Do It, pourquoi? Parce que c'est tellement neuf en fait comme phénomène et c'est ça qui replace et qui contextualise vraiment le truc. C'est que c'était un phénomène totalement nouveau et ils se questionnaient, tout le monde se questionnait quoi. Pourquoi les mecs font ça? C'est assez.
Et ce qui est cool, c'est que Cornbread, à ce moment, il explique pourquoi, tu vois. Enfin, c'est des quotes, tu vois, c'est des citations qu'il écrit, mais dans les journaux. Et puis, il explique qu'il vient, tu vois, qu'il vient de quartier et qu'il n'y a rien dans son quartier et qu'il veut pas être ni faire partie d'un gang, qu'il veut pas être un junkie, qu'il veut pas vendre la drogue et que du coup, il a trouvé que c'est leur occupation. C'est de taguer, de se représenter eux-mêmes, tu vois, de devenir un peu des stars à travers ça. Et puis, en fait, il y a un truc d'attitude qui est assez fort. Enfin, c'est ça qu'on a kiffé à travers ce projet, tu vois.
C'est un moyen de réussite, quoi. C'est un moyen d'ascension sociale. Si c'est pas d'ascension sociale, c'est au moins d'avoir une reconnaissance de quelque chose. Et c'est vrai que c'est assez fort, quoi. Et ça, tu l'as ressenti seulement quand t'as pu justement mettre la main sur ses articles, parler avec lui, lire ses articles et tout ça. C'est là que t'as pris quand même
Bah, en fait,
conscience de ça.
si tu veux, lui, il parle souvent de, tu vois, j'étais le premier, j'étais le premier. Et puis nous, c'était pas vraiment ça la question, le truc qui nous intéressait de valider ou pas. Mais par contre, quand on a discuté avec lui, vu tous ses articles, en fait, on a compris que c'est pas forcément que lui, tu vois, mais c'était cette période de Philly où des jeunes North Philly, mais aussi West Philly, ont commencé à taguer, pas juste pour représenter leur gang sur un corner, mais d'une sorte de manière un peu street, mais un peu auto-promo, et puis qu'ils ont en fait inventé plein de symboles, de signes, de crew qui tout d'un coup, bah, tu vois, c'est comme un peu une sorte de première graine, tu vois, de ce que va devenir le Fitty. Ils sont inventé un peu une sorte d'attitude avec ça, et puis c'est ça qu'on a un peu compris, qui nous a touché plus de savoir si vraiment lui ou lui était le premier writer, etc. Tu vois, c'était
Non, super intéressant, effectivement, parce que c'est vrai que quand on l'écoute, il a un discours. Voilà, c'est une personne qui a passé les 70 ans. Il a un discours qui est un peu oui, d'auto-promo, et surtout, il s'auto-proclame premier writer, ce qui ne veut pas forcément dire quelque chose, parce que quand on a lu quand même ce qui s'est passé, il n'était pas le seul. Il était au nord de Philly, mais comme tu dis, il y a la rivière qui sépare les deux, et qui les deux parties de Philly, et de l'autre partie de Philly, il y en avait qui le faisaient aussi au même moment. Mais comme tu dis, ils ont créé tous ensemble ce qui est aujourd'hui devenu le graffiti, ces codes, ces manières de le faire, les buts aussi qui sont d'être dans toute la ville, et ce phénomène qui ensuite a émergé dans toute la planète, d'abord à New York et puis dans toute la planète. Mais c'est vrai que historiquement, quand tu analyses un peu ce qu'il raconte, il y avait des gens avant lui, il y a eu les moniqueurs sur les trains, même au 19e siècle, il y a eu les gangs ou les Chicanos à New York dans les années 30. Il y a eu des choses qui ont été faites avant. Mais c'est vrai que ce qui a été créé là-bas à cette époque, à Philadelphie, c'est probablement ce qui est le plus proche de ce qu'on a pu développer en Europe, aux États-Unis, c'est-à-dire une sorte de graffiti américain avec des codes et des manières de le faire. Excuse-moi de
Bah justement, c'est exactement.
selon
En tout cas,
l'interprète.
c'est ce qu'on a ressenti nous. C'est que, tu vois, lui, il le dit carrément, ça sort du tag de gang. Même le style, il sort, parce que tu vois, ce gang, handstyle, les tags de gang, Chicanos ou même à Philly, ils ont aussi un autre style. C'est beaucoup plus carré, calligraphique, même énergique. Enfin, on peut le décrire de plein de manières. Mais là où on se retrouve, c'est dans une sorte d'attitude, tu vois, de traîner dans la rue, de faire des trucs, de juste. Eux, ils volaient des sprays, ils taguaient, ils représentaient eux et leurs potes, ils se marraient en même temps, ils faisaient des soirées. Tu vois, ils avaient créé une sorte de lifestyle autour de ça. Mais au-delà de faire partie d'un gang ou de juste de marquer son nom, tu vois, sur un train ou de problèmes vraiment existentiels, c'était plus un truc, une attitude, tu vois, un style. Et puis tu vois, sur les photos, ils ont des looks avec des bonnets,
Et il
ils se
nous en parle
marrent.
de ces clubs et tout ça, il nous en a parlé. Et effectivement, il y a un côté fun, il y a un côté,
Côté fun.
voilà, on se marre entre potes et voilà, c'est un peu comme une mode aussi, quoi.
Ouais, s'il y a un côté fun, il y a le côté fame. Après, il nous expliquait que du coup, il avait accès, il pouvait aller dans n'importe quel corner à North Philly, tu vois. Les gens le connaissaient, du coup, ça fait. Oh, c'est toi, Kendrick. Du coup, il devenait un peu all access à
Ah, il avait
travers.
un pass, un ghetto pass, comme disait
Voilà.
John Wan, ghetto pass.
C'est ça, il a un peu inventé une sorte de ghetto pass à travers, tu vois, eux, enfin, lui, eux, ils ont inventé ça. Cette sorte d'attitude et de ghetto pass, tu vois, d'être dans la rue sans être des criminels ou tu vois,
Ouais, ouais. Et c'est vrai que malgré qu'il reste quand même la pression de la rue, parce que voilà, beaucoup de ces gens-là, et pas tous, bien entendu, heureusement, sont quand même tombés dans les travers de la rue. C'était quand même une sorte de parenthèse, d'être dans la rue, d'avoir cette vie qui est dure, d'avoir peut-être un niveau social et tout qui est compliqué, avec tout ce que ça implique et tout, d'être dans un quartier difficile, entre guillemets, et black et tout ça. Mais ils ont créé une sorte de parenthèse avec justement cette nouvelle culture qui quand même implique plein de trucs qui sont positifs, quoi. Ne serait-ce que la création, le fait de se dépasser, la compétition, parce que on n'était pas un truc où les mecs étaient en train de se repasser et tout. Il y avait quand même cette énergie du début où justement il y a une compétition qui est quand même saine un peu.
ouais. Et c'est plein de trucs qui ont évolué, mais qui sont aussi restés, tu vois, dans tout ce qui s'est passé à New York, et après dans ce qui se passe aussi en Europe. Il y a plein de petits trucs, de parallèles qui sont restés. Et du coup, quand on discutait avec lui, c'est ça qui était cool, c'était de voir un peu comment certains parallèles, de comment lui, il a vécu dans les années 60, North Philly. C'était un univers, c'est complètement, tu vois, ça n'a rien à voir avec
Avec quoi que ce
Paris.
soit d'aujourd'hui,
Ouais, tu vois, c'est moi là-bas, le feeling, c'est pour moi, quand on était là-bas, c'est un univers différent. Ça me faisait penser à être dans un épisode du Wire, tu vois. C'est pas
parce
en
que
plus.
ça reste, j'allais te demander l'ambiance qu'il y a là-bas. Moi, je suis jamais allé à Philly, mais il y a cette cette réputation un peu d'être restée quand même une ville assez assez rough, quoi, hein, assez dure quand même, assez populaire, assez. C'est quoi toi ton impression quand t'es arrivé là-bas?
Mon impression, c'est que chaque fois que j'étais à Philly, j'ai adoré, j'ai kiffé. Les gens étaient trop cool, mais tu sens, c'est une ville rough. Et là, en ce moment, enfin, il y a des taux de meurtre élevés, c'est une ville dure. Il y a une crise de Kensington Avenue, c'est genre, c'est Zombieland, tu vois. Il y a la crise du fentanyl, c'est,
Oh,
enfin,
ok, il y a ça aussi là-bas, c'est vrai, j'ai vu plein de
c'est
vidéos
super
sur ça.
chaud. Et puis, c'est une ville qui est, ouais, qui est un peu. Qui a pas mal d'histoires, c'est très proche de New York, mais en même temps, tu sens que l'atmosphère, elle est complètement différente. Après, il y a un truc assez. Ouais, c'est rough. Les gens sont vrais, les gens sont cool, mais c'est
Mais
vraiment
d'ailleurs,
différent.
mais d'ailleurs, ce parallèle avec New York, parce que là, lui, il l'évoque à dire, et ça m'avait fait un petit peu marrer quand j'ai fait l'interview, mais en même temps, voilà, c'était probablement sa réalité. Il parle de New York comme des riches, ils sont riches à New York, ils ont les buildings, les machins. Tu vois, c'est assez ouf de dire que les gens sont riches à New York quand tu sais comment est né le hip-hop, le graffiti à New York, le Bronx, les machins et tout, tu vois, on est loin quand même de cette imagerie-là, mais pour lui, venant de Philly, New York, il y avait une imagerie de c'est les gratte-ciel, c'est le show business, c'est eux ils sont riches et voilà
Ben,
quoi. Vas-y.
parce que je pense Philly, le nord de Philly, c'est toujours resté street, tu vois. Les streets, elles ont jamais, ça restait street. Et à New York, je pense que les quartiers ont évolué plus vite, tu vois, ont changé. Et aussi, ce qu'ils nous disaient, je pense qu'ils sous-entendaient à travers ça, de genre, ils sont riches, c'est que à New York, même, tu vois, ce qu'ils nous expliquaient, c'est que dans les années 70, avec une crise de l'héroïne, beaucoup de dealers, beaucoup de gens sont devenus riches avec la drogue, tu vois. Et qu'en fait, il y a des gens qui sont devenus très riches très vite, des gens de quartier, tu vois, des gens de Harlem, des gens de plein d'endroits, et qu'ils ont réinvesti d'une certaine manière dans la musique, dans le hip-hop, dans plein de trucs, tu vois. Et c'est ça que lui expliquait, nous expliquait qu'à Philly, ça s'est jamais passé. Il n'y a jamais eu des musiciens qui ont eu, à cette époque, tu vois, des contrats de ouf. Et que ce qu'il évoque, entre guillemets, hein, c'est qu'il y avait des gens qui investissaient, qui blanchissaient de l'argent et qui faisaient, tu vois, toujours dans la rue, hein, qui ont un peu alimenté pas mal de choses à travers ça, tu vois.
Ok, je comprends et ça a du sens, effectivement. Et j'imagine que si même tu arrives à faire de l'argent à Philly, tu prends le train et tu vas à New York pour
Exactement,
réussir, quoi. Il y a plus d'opportunités là-bas,
pas investir trop dans le quartier
dans le
là.
local, quoi. Ah ouais, ça a du sens alors de pourquoi il était dans cette mentalité-là. J'arrivais pas à comprendre complètement ça. Très bien, super intéressant. J'aimerais revenir au style parce que tu as parlé brièvement un peu de Gangster Hand, qui était donc ce style qui venait plus des gangs et tout. On parle de style de graffiti qui venait plus des gangs peut-être des années 60 et qui a été plus ou moins fondu dans le style de graffiti classique de Philadelphie qu'on peut ressentir dans justement des photos que vous avez publié aussi là-dedans, parce qu'il n'y a pas que des tags de Cornbread, il y a aussi tous les gens qui étaient présents, ou alors une partie des gens qui étaient présents à cette époque-là. Et j'aimerais que tu parles un petit peu plus du style, parce que, et pour développer cette histoire de style, si on parle du Gangster Hand au début, on peut parler aussi de comment le style de Philly s'est développé, parce qu'on sait qu'après, dans le milieu des années 70, tu avais justement ce Wicked Style avec ces lettres qui existent toujours, ces lettres vachement allongées, ces tags qui ont des fois plus d'un mètre de haut et tout. Comment ça s'est rentré dans votre analyse de comment vous alliez construire cette fonte? Est-ce que vous vous êtes dit, bon, on reste sur exactement ce que Cornbread fait? Et on fait fi de tout ce qu'il y a pu y avoir avant ou après, ou est-ce que c'est quand même rentré en considération cette évolution de style qu'il y a eu à Philly et qui est extrêmement spécifique?
Bon, c'est vrai que Philly, c'est une histoire hyper spécifique. Moi, je ne suis pas un expert là-dedans, tu vois. Après, Philly, je pense que c'est une ville qui est restée, qui a évolué dans le tag, et qu'ils ont développé plein de styles vraiment à travers le tag, que je trouve super beau et cool.
Ouais, super beau.
Après, ce qui nous plaisait avec Cornbread spécifiquement, c'est qu'il avait un peu un style justement un peu différent, où c'était vraiment plus un truc de taille, de lisibilité, tu vois,
C'est
des
vrai.
grosses où il prenait toute la place avec la couronne. Et puis après, il y avait des attributs. On a pris aussi dans la typo quelques attributs de ses potes, donc Titi Peace, tu vois, avec le peace sign.
Il l'évoque d'ailleurs dans l'entretien.
Docteur Cool, il y a aussi ce O avec les deux traits sur les yeux, tu vois. Enfin, on a intégré quelques trucs de gens qui étaient assez proches de lui, tu vois, qui taguaient avec lui, en fait, et qui faisaient même partie de son crew. Mais pour revenir, ouais, au style, tu vois qu'il y a d'autres qui ont des styles limite un peu plus agressifs, qui font un peu plus penser aux tags de gang, tu vois. Et pour nous, le tag des Cornbread, il se différenciait un peu de ça. Et on trouvait ça cool. Ouais, pour nous, c'était presque, ça montrait une sorte d'autre attitude un peu. Ça va être un peu cliché, mais presque un peu hip-hop positif, tu vois, où il y a un peu un truc, ouais, ou de, je sais pas, il y avait un truc qu'on a kiffé
Je
à travers.
vois cette rondeur des lettres. Il y a une certaine, peut-être une certaine naïveté, un petit peu, une
C'est
certaine.
ça, un peu naïf. Et aussi, du coup, ce qu'on kiffait, c'est parce que c'est moins attendu dans le, tu vois, dans l'idée d'une typo grave, tu vois. Tu t'attends pas à un truc si rond avec des grosses lettres, des petites lettres. Et du coup, on trouvait ça cool.
Parce que ça se rapproche plus d'une écriture d'écolier, limite, quoi.
Limite, ouais.
Voilà.
C'est vrai que c'est.
Sauf que c'est un écolier qui écrit sur les murs à la bombe et qu'il y a des erreurs, comme on disait d'ailleurs, on revient à cette notion peut-être d'erreur, mais qui font justement le style, qui font que c'est intéressant. Mais par contre, ce qui est bien, ou ce qui est bien, en tout cas, je ne sais pas si c'est bien, mais ça rejoint un peu votre objectif, c'est que c'est une typo qui reste lisible et qui n'est pas forcément au premier regard se dire. C'est du graffiti. C'est plus une sorte de. Ouais, si, c'est graffiti quand même. Tu sais, je suis en train de le regarder en même temps que je suis en train de parler. Et
C'est que c'est
si.
graffiti, mais c'est pas le truc le plus stylé, ou c'est pas à propos du style, tu vois, c'est pas que le hand style, c'est un truc qui est un peu au-delà de ça, limite. Mais c'est quand même graffiti, et c'est quand même simple à la fois, tu vois.
Ouais, et c'est instinctif, voilà, il y a un côté instinctif, il y a un côté enfantin, et en même temps, il y a un flow. En même temps, il y a un flow qui est indéniable, quoi. Donc c'est quand même peut-être tous les éléments d'un bon tag quand on réfléchit, quoi.
Ouais. Et en fait, si quelqu'un, si les auditeurs chopent un livre, en fait.
Ah, je fais une parenthèse, c'est mon côté promo à la Cornbread. Le livre est dispo dans la boutique du podcast. Donc vous n'avez pas d'excuses de ne pas vous le choper. Vas-y, je te laisse continuer.
Un peu livre dans la boutique. Non, mais pour ceux qui du coup achèteront le livre, passer en revue les articles et regarder les textes, parce qu'en fait, nous, on s'est pris vraiment une claque en regardant ces textes, et ils sont super drôles. Il y a des quotes de plein de gens, de Cornbread, de Dr. Cool, One, et ils racontent plein de trucs. Et en fait, c'est un peu une sorte de testament de ce qu'était le tag à cette époque, quoi, à Philly, et puis de la scène, quoi, en fait. Et puis, c'est vrai que Cornbread, il est dans tous les articles. Tu vois, c'est le headliner. C'est aussi pour ça, je pense, que qu'il fait, tu vois, ce truc de promo, c'est qu'il était, tu vois, il était, je pense, il était peut-être par son style et par sa lisibilité, mais il était super connu. Et chaque fois qu'il y a un article de un journaliste qui parle de graff ou de graffeur, il parle de Cornbread, tu vois, souvent en premier.
C'était devenu le symbole du graffiti à Philadelphie. Et ça, c'est indéniable. Effectivement, historiquement, ça reste. Mais tu sais, c'est souvent comme ça. Hein. L'histoire, elle s'écrit des fois aussi. Il y a une part de vérité, il y a une part d'éléments extérieurs qui font que tu retiens plus quelqu'un qu'un autre, quoi. Mais en l'occurrence, voilà, les photos sont là. Le mec était là. On ne peut pas dire que ce soit un imposteur. Hein. En aucun cas.
Non, non, mais parce que du coup, tu vois, quand tu parles, je me réjouis d'écouter d'ailleurs l'entretien que tu as fait avec lui. J'étais pas là, mais du coup, des fois, tu vois, il en fait beaucoup, il explique comment c'était le meilleur, comment c'était le premier, etc. Et du coup, au bout d'un moment, tu sais pas à quel point C'est vrai à quel point, tu
C'est
vois,
vrai.
c'est aussi, tu parles de plus de 50 ans, 60 ans en arrière, donc c'était une période, je pense aussi dans sa tête, certains éléments doivent être flous. Et puis, à travers ces journaux, bah, en fait, tu as un peu des facts qui reviennent, tu vois, où tu as lui qui parle de lui et qui disent qu'ils ont fait ça, et en fait, c'est super drôle.
Ah, c'est extrêmement intéressant. Et justement, quand toi, tu l'as confronté à ces articles de journaux que toi, t'as trouvé, comment était sa réaction? Est-ce que ça a enclenché justement des souvenirs, des anecdotes, ou est-ce que c'était juste un sourire sur ses lèvres? Comment il réagissait à ça?
Bon, lui, il a déjà halluciné plus de la technicité du livre. Il était là, waouh, mais comment t'as trouvé ça, tu vois? C'était genre, wow. Après, il y avait les cartoons, les trucs. Et je pense qu'il a kiffé. Je pense pas qu'il a même relu tous les articles, en fait.
D'accord,
Mais,
ok.
et je pense que, non, de manière générale, lui, il a kiffé. Dès qu'il voit son nom écrit dans un newspaper, tu vois, il gagne. Donc, du coup,
C'est
c'est.
déjà du bonus, quoi. C'est
C'est ça.
ok. Et donc, pour en revenir au livre en soi, vous étiez parti pour faire une fonte, une police de caractère, on a bien compris tout ça. Vous aviez travaillé sur ça. Ensuite, j'imagine qu'il y a eu un gros boulot derrière. En quoi consiste le boulot d'ailleurs? Et après, on va revenir sur le contenu du livre, mais pourquoi ce livre? Mais en quoi consiste le boulot une fois que tu as tout ce matériel, toutes ces feuilles, où il a fait des tests de tags? Et puis c'est souvent, il n'y a pas que des tags, c'est-à-dire qu'il y a aussi, il était connu pour marquer un peu des punchlines aussi. Ça aussi, ça a fait son succès, des trucs I'm back, Cornbread, the real Cornbread is not dead, toutes ces Cornbread has retired, toutes ces petites punchlines comme ça. Donc il a écrit ça. Quel est le step après ça? Qu'est-ce que vous en faites de tout ça et comment vous avez arrivé à créer cette police de caractère?
Bon, en fait, on avait genre beaucoup de feuilles avec plein de lettres, plein de tags, plein de mots. On lui a fait écrire aussi des combinaisons de lettres spéciales
D'accord.
pour qu'il alterne petites lettres, grandes lettres. Et en fait, la première phase, ça a été d'analyser un peu tout et de capter un peu pour rendre l'aspect entre guillemets original de la typo. On a un peu analysé quand c'est qu'il utilisait telle sorte de O. Par exemple, le O good, il l'utilise au début du mot, mais pas à la fin du mot. Ce R, il va l'utiliser là et pas là, tu vois. Le E, quand c'est qu'il fait la grande lettre, quand c'est qu'il fait la boucle du D. Comme ça, on a un peu analysé un peu des trucs, des logiques, tu vois, qu'il a dans son tag et dans ses lettres. Et ensuite, on a digitalisé, donc redessiné toutes ces lettres dans notre logiciel de typo. Et avec une sorte de code, on a créé ce qui s'appelle des contextuels alternates. C'est des cas spéciaux. Ça veut dire que si tu écris un mot, si tu écris cornbread, il va utiliser d'autres lettres au milieu. Il va mettre le R avec la couronne.
D'accord.
Il va utiliser un gros D à la fin. Si tu écris un autre mot, je sais pas, si tu écris graffiti, tout d'un coup, il va alterner certaines lettres pour que, tu vois, pour créer un peu cette
C'est un
espèce.
système, quoi.
C'est un système, ouais. C'est un système avec, mais c'est un code si tu veux, avec une longue liste de ok, si la
Je
lettre, le milieu
comprends.
elle est ça, c'est fini, tu vois. En fait, souvent, ce qui fait qu'une typo de tag elle marche pas très bien, c'est que tu fais pas le même K ou le même R à la fin d'un mot qu'au milieu du mot,
Je
tu vois.
comprends. Donc il y a un truc statique un petit peu et c'est figé un peu, les lettres sont figées.
C'est ça, tu vas mettre plus d'énergie ou plus de flow, ou tu vas faire une plus grosse lettre au début, ou tu vas gérer tes lettres différemment si c'est une lettre, tu vois, de début, de fin. Et donc on a fait cette analyse, et après on a fait plusieurs variantes de chaque lettre qu'on a ensuite codées pour que ça ressemble le plus possible à ce qu'il a écrit, tu vois. Et
D'accord.
ça, tu le vois dans les pages du livre au milieu. Ça, c'est des pages qui ont été refaites avec en fait ce qu'il avait écrit. Et ça s'est refait directement avec la typo. Donc quand il y a un double E, il va mettre un E différent. S'il y a un ET espace à la fin, le T, s'il écrit street, le T à la fin, il tombe. Tu vois. S'il finit un M, le F du début, il va être différent. Si tu écris OF, c'est un petit O et un gros F. S'il écrit OFF, c'est un gros O. Tu vois, c'est des sortes de logiques qu'on a essayé d'intégrer dans la typo, quoi.
Même les dés et tout, ils changent aussi. Ouais, non, c'est
Ouais,
extrêmement intéressant.
il y a trois quatre différents qui viennent à différents moments, quoi.
Ah, ouais. Et donc, vous revenez à la maison avec ça, avec tous ces souvenirs, avec toutes ces discussions, mais aussi cette fonte que vous arrivez à restructurer, que vous arrivez à travailler et tout ça. Mais d'où vient le projet d'en faire un livre, parce que vous êtes parti là-bas pour faire une fonte, c'est ce que vous lui aviez
Absolument.
vendu un peu à Daryl. Et arrivé là, vous dites non, en fait, on va faire un livre, et sachant que quand même, il n'y a eu aucun livre sur Cornbread, quoi. C'est-à-dire un livre totalement dédié à Cornbread.
Ouais. Bah alors c'est vrai que c'est venu après coup. On travaillait sur la typo et souvent quand on sort une typo, on fait ce qu'on appelle des spécimens, c'est des livrets, souvent pas forcément des vrais livres, tu vois, avec des couvertures dures. Mais des livrets qui présentent la typo, on appelle ça des spécimens. Et on s'est dit, ah bah vas-y, on va faire un spécimen. Et ensuite, on s'est dit, non mais pour Cornbread, le spécimen, il faut que ce soit un livre, tu vois. Il faut que ce soit un vrai livre avec une couverture dure qui est un peu du contenu, tu vois, qui explique aussi un peu
Le
la
contexte,
recherche,
quoi.
l'histoire, la jeunesse, tu vois, qui est un peu, ouais, du contexte et plusieurs layers, ce qui nous a aussi toucher ce qu'on a vu, tu vois, ces coupures de presse au début, les lettres, et puis après des photos à la fin. Et à un moment avec lui, on avait parlé vite fait qu'il voulait faire un livre, il voulait faire plein de trucs, il voulait faire un film, il voulait faire un
Ouais.
livre, il voulait faire plein de trucs, tu vois. Et il voulait faire des expos, il voulait
Il
plein de
vient, il
trucs.
veut venir à Paris, et ça, on a pu le comprendre
Ça,
aussi.
il veut venir à Paris. Bon, ça c'est vraiment, il me l'a dit plein de fois, son rêve de venir faire un truc à Paris.
Il
Donc,
nous l'a dit aussi peut-être 10 fois,
ouais.
quoi. Donc je pense que l'appel est bien lancé, quoi. S'il y a des gens qui veulent l'inviter, il faut le faire.
Moi, je lui ai dit que ça allait se passer, je lui ai, sans trop lui promettre n'importe quoi, mais je lui ai dit qu'à un moment donné, il allait venir à Paris et qu'on allait faire des trucs. Mais ouais, du coup, pour revenir au livre, on s'est dit qu'on allait compiler ça. Le spécimen, ça allait devenir une sorte de livre, de book, qui reprenait un peu l'esthétique de son book, c'est-à-dire coupure de journaux photocopiés et tag, images de. D'archives agrandies, photocopiées, etc., avec des pages de typo au milieu, quoi.
Ouais,
Et
donc c'est bien ça pour expliquer un peu la structure de livre. Tu as une première partie, c'est donc un livre en 3 parties. Tu as une première partie qui regroupe donc tous les articles de presse qui sont consacrés aussi à ce mouvement de graffiti à Philly, donc qui est précurseur de celui de New York. Ensuite, le milieu, c'est donc la fonte avec ce dont on vient de parler, et donc cette reproduction basée sur tout ce que vous aviez travaillé de ses écritures. Et la troisième partie, c'est une interview et aussi donc tout un glossaire qui revient sur tous les éléments que vous aviez trouvés et donc qui donne les dates, qui donne les références et tout ça. C'est bien ça?
Oups, pardon. Ouais, c'est ça. Et il y a en plus un interview qu'on a fait avec lui. En fait, on l'a filmé, on lui a posé deux, trois questions et on filmait ça. Et après, on a retranscrit l'interview à l'intérieur qui explique justement un peu plus le contexte enfin, quelques questions qu'on lui a posées, qu'on trouvait intéressantes sur le contexte.
Ouais, totalement. Et justement, pour faire une sorte de boucle par rapport au début où on parlait de l'édition, de la publication, du fait que ça fait partie de votre univers et de votre ADN de fabriquer des livres aussi, tout ce qui est lié à ce livre a été pensé d'une manière pour rendre quelque chose de cohérent. Et je ne sais pas si je suis vraiment clair par rapport à ça, mais peut-être que tu pourras le développer un peu mieux, c'est-à-dire que vous avez choisi volontairement justement une sorte de couverture donc qui est dure, mais qui fait rappel un peu à du carton un peu rough, un peu brut. Le livre est en noir et blanc, en noir et blanc, les articles sont en noir et blanc, la typo est en couleur. Tu veux me parler justement de la création du livre en lui-même et de ce que c'est en tant qu'objet et quelles ont été vos réflexions et vos buts par rapport à ça?
Bah ouais, le livre en fait on a essayé de le penser de manière simple, mais que ce soit beau et que ça représente en fait les archives et l'ambiance, la vibe de ce qu'on a rencontré. Donc, on voulait une hardcover, mais on voulait pas que ce soit un truc qui soit, tu vois, kitsch ou un peu chic, tu vois. Mmh. Donc, c'est pour ça, il y a cette ambiance copie de journaux. Sur ces journaux, il y avait des écritures, des trucs écrits, soulignés. Donc, la cover, elle est comme ça, avec des tags sur le journal coupé brut. Donc, tu vois le carton avec un papier assez fin. Pour l'histoire, c'est un papier qui a du bois à l'intérieur et qui va jaunir aussi un peu avec le temps. Du coup, ça va aussi se lier. Je pense que les pages journaux vont s'ambiancer un peu dans...
Ouais, non, elles vont vivre, non, ça a totalement du sens. Et ça, tu vois, c'est ce type de détail, moi, qui m'intéresse, parce que tout a été pensé comme ça, tu vois. Souvent, j'ai des retours sur le forum et tout. Des retours qui sont peut-être, et ce que je peux totalement comprendre, sur des livres, ah, c'est basique, pourquoi ça coûte ce prix-là, le mec, il laisse des pages blanches, et c'est toute une réflexion qu'il y a derrière, tu vois. Et ça, c'est important de le souligner, c'est important de l'expliquer, tu vois, pour que voilà, c'est ce qui fait aussi la différence entre un livre basique et un livre qui a été réfléchi jusqu'à bien sûr quel papier utiliser, pourquoi on fait ça, et tout est voilà, il y a une explication derrière tout, quoi, donc ouais. Derrière chaque choix, quoi, et ça, c'est important de le dire quand même.
C'est clair que le choix des matériaux pour le design d'un livre, c'est super important. Et ça ne veut pas dire que le papier doit coûter cher pour qu'il soit bien. Mmh. Là, en l'occurrence, c'est des papiers qui sont super cool, mais qui ne coûtent pas très cher, qui ne sont pas faits d'habitude pour des livres d'art. C'est des papiers, justement, pour des livres de texte, c'est un papier qui n'est pas cher, en gros. Et après, c'est l'impression, c'est du noir, c'est non plus pas quelque chose de cher. Mais c'est ce que tu apprends avec l'expérience. Ça fait longtemps qu'on design des livres. Et du coup, on sait aussi comment jouer ou adapter ou donner un peu un feeling à travers les objets.
Non mais 100%, mais cette connaissance aussi fait la différence. Et ce qui est intéressant, moi ce que j'aime bien, et ce que je répète souvent, j'aime pas l'élitisme, tu sais, que ça soit dans n'importe quoi. Je trouve que c'est un critère d'exclusion et vraiment c'est quelque chose qui me plaît pas, surtout pas dans l'art ou dans l'édition et tout. Et justement, avec des livres comme ça, ça peut être lu à différents levels. C'est-à-dire que moi, en tant que Goethe de base, qui aime des trucs, je vais kiffer le livre, sans me poser plus de questions. Et par contre, si je suis à fond dans le design et tout, je vais comprendre les petits tricks, les trucs comme ça. Et moi, c'est ce que j'aime justement dans ce que vous faites, et ça depuis le début, et c'est pour ça que j'avais travaillé avec vous, c'est justement ce côté, ça peut être... lu à différents levels et il n'y a aucune exclusion dans ce truc-là. Mais si jamais tu arrives à avoir tous les codes pour pouvoir le lire d'une certaine manière, tu vas te rendre compte du travail qu'il y a derrière, tu vas te rendre compte justement des décisions et tout ça, et je trouve ça extrêmement intéressant.
Cool, ben merci.
Ouais, j'avoue que c'était pas un truc où tu avais à répondre forcément.
Non, mais en vrai, pour nous, le but c'était aussi que tu vois que Cornbread kiffe le livre, que nous on kiffe le livre, comme tu dis, qu'un jeune tagger kiffe le livre, qu'un mec qui fait de la typo kiffe le livre, peut-être qu'un académique qui trouve toutes les coupures de presse et qui se dit waouh, tu vois, time bubble, tous ces articles, c'est hyper intéressant, tu vois, que ça puisse exactement justement toucher plein de démographies.
Mmh. Bah c'est réussi. Et justement, peut-être pour conclure, comment a réagi Daryl quand vous lui avez fait voir le livre? Parce que j'imagine qu'au tout début, venir avec ce concept de fonte, j'imagine bien entendu, il n'est pas idiot, il a compris, mais peut-être qu'il ne voyait pas justement l'ampleur de ce que ça pouvait être et à quoi ça pouvait vraiment correspondre. Et comment a été sa réaction justement à la vue du livre et à la typo? Parce que la typo est aussi disponible avec le livre, correct?
C'est ça, avec le livre, tu reçois une version de la typo, la plus grosse qui s'appelle FAT. Mm-hmm. Et sur notre site MaxiType, tu peux acheter plus de licences pour plus de graisse. Il y a une skinny, une régulière, il y a différentes.
Ok, licences. Mais celle de base avec le trait le plus gros, donc celle qui est utilisée pour la couverture, est disponible gratuitement avec l'achat du livre, correct?
Tu achètes le livre, tu as un code à la fin, voilà. Tu peux télécharger la typo. Et bah ouais, pour revenir à ta question, c'est clair que pour lui, la typo, c'était un peu plus abstrait. Qu'est-ce que ça allait devenir, tu vois, qu'est-ce que ça allait
Bien sûr.
faire? Tu vois, c'est un truc, c'est immatériel, ça se vend sur des ordis, c'est pas un truc qui fait partie de son univers.
Bien
Tandis que
sûr.
le livre, tu vois, c'est un truc physique, il a capté direct. Et puis, c'était cool, en fait, on était à New York pour la Book Fair à New York, il y a 2 mois. Et on a reçu les premières copies et il est venu depuis Philly à New York. Et c'était cool. Du coup, on lui a montré le livre. Il est venu à notre stand à New York et il était là, waouh, il a halluciné. Tu vois, il l'a pris dans tous les sens. Et après, il était là, waouh, vous avez combien de copies? On n'avait que 10 ou 15 à ce moment. Parce que c'était vraiment les premières copies qui venaient d'arriver depuis notre imprimeur. Et il était chaud, il était là, il a commencé à vendre le livre à tout le monde. Genre, waouh! What do you know about this? What do you know about hip-hop? Et tu vois, il commençait à essayer
Il a ce côté-là, il a ce côté vendeur, de toute façon.
promo, il a commencé à vendre des livres et ça a marché, tu vois. Au bout de 5 minutes, il y avait plein de gens autour de la table, il y avait des mecs qui faisaient des dédicaces sur les livres. Et tous les livres sont partis en 5 minutes, tu vois. Au début, une ou deux personnes n'ont pas trop capté et tout d'un coup, il y a eu un petit mouvement et on a tout vendu en 10 minutes.
Bah, charmé, charmé. Bah, écoute, super, super projet. Moi, je le recommande, il est dans la boutique. Voilà, c'est super, super, super projet. Et vous avez donc la discussion de Cornbread qui est en amont de ce podcast, donc vous avez certainement dû l'écouter. Merci beaucoup, David. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, peut-être avant qu'on conclue?
Non, c'est cool, merci à toi, ça fait plaisir.
Bon, bah, super. Merci, David. Ciao.
Ciao.